Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, donc dans notre série des lois pour vivre, des 10 commandements, on a donc 3 premiers commandements qui concernent notre relation avec Dieu et 5 suivants qui concernent nos relations les uns avec les autres. Et donc le 8e commandement pour aujourd'hui que nous allons étudier ensemble, c'est « Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Là aussi, on en a parlé, on est dans un problème aussi de société, souvent des choses qu'on voit qui vont pas dans la société, c'est parce qu'il y a des choses de la parole de Dieu qui sont pas appliquées. Ici, Dieu nous a dit, il a dit à tout le monde, ne dis pas de faux témoignages. L'explication de ce commandement, c'est pas seulement ne pas donner de faux témoignages, mais c'est plus que ça. Le sens de ces paroles, c'est nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir à notre prochain, le trahir, calomnier ou diffamer, mais de l'excuser, dire du bien de lui et de juger charitablement sa conduite. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf et quand quelqu'un fait un sale coup, si vous me permettez, on va dire non, c'est bien, il est gentil et tout. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire de ne pas essayer de le charger encore plus et de répondre en accélérant et en envenimant la situation. On a une introduction que j'aimerais vous lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est au chapitre 4 et au verset 25 et on va voir plusieurs extraits de ce chapitre 4. Au verset 25, nous lisons « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc pour nous, il est quand même étonnant qu'on doive dire aux chrétiens, même écrire une lettre spéciale « Vous ne devez pas mentir » comme si c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce matin, j'ai une révélation pour vous. Vous savez, vous ne devez pas mentir. En fait, vous devez arrêter de mentir. On a l'impression que c'est un peu décalé, que ça devrait être presque naturel, évident pour des chrétiens de ne pas mentir. Mais pourtant, quand on va voir, quel combat on a au quotidien par rapport à ces choses. Le mensonge. Le mensonge, c'est un mot global qui regroupe plusieurs autres choses. Donc, on doit quand même le rappeler, parce que trop facilement, on peut agir comme tout le monde, et pourtant, vous savez, on est appelé à être différent. Il doit y avoir réellement, pour chacun d'entre nous, un avant et un après, ce qu'on faisait avant, et ce que maintenant, la vie avec Dieu nous conduit de faire, de nous comporter de manière différente. Jean 8, 44 nous dit la chose suivante. C'est Jésus qui parle à certaines personnes qui étaient très religieuses, qui croyaient qu'elles étaient du bon côté, et il leur dit « Vous avez pour père le diable ». C'est assez fort ça, hein ?« Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Donc présenter le diable comme menteur, c'est aussi nous rappeler que quand Jésus a dit « Je suis la vérité », on voit que la vérité est d'un côté. La vérité, les choses qui viennent de Dieu sont d'un côté. Et le diable, l'adversaire de Dieu, il est le père du mensonge. Parce qu'il accuse sans cesse et il veut contester les choses que Dieu dit. Donc nous devons comprendre que dans les commandements que j'enfreins, finalement je me range du côté du diable. Je n'aime pas certaines choses qui se font dans le monde, mais je participe aussi si j'accepte certaines choses. C'est pour ça que nous voulons vraiment travailler à ça et d'être conscient que des fois, on veut parler d'un problème, mais en réalité, on peut aussi être complice. Donc réellement, posons-nous la question, est-ce qu'on est des destructeurs ou est-ce qu'on est des bâtisseurs? Il y a des gens comme par exemple qui pratiquent le vandalisme, le terrorisme, les attentats, mais ils construisent rien, ils veulent pas construire un monde meilleur, ils veulent juste détruire ce qu'ils n'aiment pas. Alors que Jésus, lui, il a commencé à dire « Je bâtirai mon église », il a dit « Je suis venu pour construire quelque chose, construire un nouveau monde, construire le royaume de Dieu ». Dans Jean 10, 10, il montre bien la différence entre les deux royaumes. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on va se positionner. Le vrai et le faux usage de la parole. Est-ce qu'on va faire un bon usage de la parole ou est-ce qu'on va faire un mauvais usage? Et il nous faut donc prendre une décision de renoncer au mensonge. Quelques mots pour décrire le diable, parce qu'il a beaucoup de mots. Il est appelé le calomniateur, le diviseur, l'ennemi, plein de choses comme ça qui concernent cette même personne spirituelle qui est l'ennemi de Dieu. Donc nous devons aussi être attentifs à ne pas médire. Médire, c'est dire du mal. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que si ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, alors c'est plus une médisance. Donc, médisance, c'est dire du mal, on ne le dit pas dans bien intentionné. C'est parce qu'on veut nuire à la personne. On peut aussi se laisser aller, des fois, accuser. Le diable est encore appelé, c'est encore un de ses mots, l'accusateur. Donc, dans Apocalypse 12, 10, on a ce verset, il est dit, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Accusé. Dans un autre passage de la Bible, dans Zacharie, au chapitre 3, verset 1, il nous est dit que le prophète Zacharie a eu une révélation. Il a eu cette vision et il a vu Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait là pour l'accuser. Toujours accusation, accusation, accusation. Quand quelqu'un est sans cesse en train d'accuser, il se range du côté du diable parce qu'il veut détruire la personne. Un autre aspect, donc on est toujours dans ce premier point où je dis par rapport à notre position, hein, on a même bien suivi. On a eu médisance, accusation. Par exemple aussi semer le doute. Là, c'est encore une des techniques du diable. Pourquoi je le décris lui? C'est parce que quand nous voyons la façon dont lui se comporte, quand on agit comme lui, on est complice de lui. Semer le doute. C'était tout au début dans la Genèse, Genèse 3, verset 1, il nous est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Et il dit à la femme, on se rend compte que c'est le diable qui a pris cette forme du serpent et il a séduit Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Donc ce côté séduction semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit? On le voit dans les comportements humains aussi. Quand on veut porter préjudice à quelqu'un, on peut colporter une nouvelle. Est-ce qu'il a vraiment voulu faire ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Dans le sens, une fois de plus, de semer le doute et semer aussi autre chose. On parle de semer la zizanie. D'accord? Alors la zizanie, j'ai fait quelques recherches, dont d'ailleurs un ouvrage que je vous recommande vivement, la zizanie. Le nom zizanie désigne initialement une mauvaise herbe, ainsi que l'ivraie, d'où l'expression « semer la zizanie », c'est-à-dire la mésentente, les causes de discorde et de désunion. L'étymologie, ça c'est pour un peu votre culture, hein. L'étymologie très ancienne, elle remonte aux Sumériens. Les Sumériens, déjà, ils savaient semer la zizanie. Hein. Et donc, elle désignait l'ivraie et la mauvaise herbe, puis au grec ancien, puis au latin. Et le mot est présent dans la parabole de l'ivraie. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. Vous voyez, on parle de la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13, 25. Semer la zizanie. Et donc, semer la zizanie, ben, on va y revenir tout à l'heure à notre ouvrage de référence. C'est que, en réalité, quand on a vu tout cela, tout ce que le diable fait, et tout ce qu'on peut faire en imitant son comportement, qu'est-ce que ça produit? C'est mon deuxième point. Ça détruit la vie de quelqu'un. Clairement, ce n'est pas pour lui faire du bien, ce n'est pas pour l'aider qu'on fait tout ça, c'est pour le détruire. Et là, on revient dans notre Éphésiens 4, que j'avais dit tout à l'heure. La première chose, c'était renoncer au mensonge. La deuxième, est le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, écoutez bien, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Alors si vous enlevez tout ça du milieu de nous, mais c'est le paradis sur terre, c'est un endroit merveilleux. Et on se rend compte que ben, finalement, toutes ces choses pourrissent la vie des relations des gens les uns avec les autres. Alors si vous enlevez l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté, là c'est merveilleux, mais c'est l'objectif en fait. On veut vivre une partie du royaume de Dieu ici-bas. Mais hélas, ce n'est pas la plupart du temps que ça se passe comme ça. Et on voit justement dans toutes ces choses de mensonges, de faux témoignages et d'accusations, on a des personnages dans la Bible. C'est pour ça que c'est intéressant de lire la Bible, parce qu'on découvre des gens qui étaient comme vous et moi, et qui ont vécu. On peut pas dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Jamais personne n'a vécu ça, et personne ne peut me comprendre. Si, il y a des tas de gens qui ont vécu ça. Et des tas de gens qui ont, des fois aussi, trouvé des solutions. Pas toujours des solutions faciles, pas toujours des solutions rapides. Des fois, il a fallu subir des choses et être victime d'injustice. Par exemple, dans la Bible, on a un premier personnage que je voudrais citer, c'est Joseph. Joseph, dans la Bible, pas l'époux de Marie, le premier cité, c'est un des fils de Jacob. Il a été trahi par ses frères, vendu, s'est retrouvé en Égypte, et à un moment donné, il est dans une très bonne position auprès d'un homme, et voilà ce qui se passe. C'est que la femme de ce monsieur qui s'appelait Potiphar, elle a trouvé très beau ce jeune homme et elle voulait coucher avec lui. Et donc la Bible parle des choses, des relations humaines telles qu'elles sont dans la réalité. Et elle a insisté. Et lui, comme il voulait être correct, ne pas aller contre les lois de son Dieu, eh bien, il n'a pas voulu. Donc elle l'a accusé de tentative de viol. Et nous lisons ça dans Genèse 39, versets 14-15. Elle dit, « Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai élevé la voix, que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Donc c'était un faux témoignage. À cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Lui qui a voulu être vraiment propre et honorer son Dieu, être intègre, voilà ce qui se passe. Donc il y a des gens qui, des fois, disent, ben voilà, j'ai essayé de suivre Dieu et de vivre une bonne vie et voilà ce qui m'arrive. Mais la chose importante pour nous, c'est toujours de voir la fin de l'histoire. Et il nous est dit, Dieu était avec Joseph en prison. Dieu l'a de nouveau justifié. Il lui a permis de sortir de prison. Et vous savez, l'histoire finale, c'est qu'il est devenu premier ministre du pays le plus important de l'époque. Et il avait toute autorité. Et il ne nous est pas dit qu'à ce moment-là, il s'est vengé de l'accusation de cette femme. Mais le plus important pour nous, c'est de voir qu'il y a eu des faux témoignages, il y a eu des gens qui ont souffert. L'apôtre Paul, il nous est décrit de la façon suivante dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 5. Voilà ce que disaient les gens qui étaient contre Paul. « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Il excite des divisions parmi tous les Juifs du monde et c'est le chef de la secte des Nazaréens. » Donc voilà comment on parlait de Paul. Alors nous, on peut des fois admirer certains personnages bibliques. Oh, si j'étais comme Joseph, Paul, etc. Mais quand vous voyez ce qu'ils ont traversé, ils n'ont pas été épargnés, mais ils ont quand même été fidèles à Dieu. Donc on a dit que dans notre deuxième point, on développait le fait que ça vise à détruire la vie d'une personne. Une rumeur, une seule rumeur peut ruiner la carrière de quelqu'un. Par exemple, tout le monde connaît l'évangéliste Billy Graham. Il nous est dit que Billy Graham n'a jamais accepté de se retrouver seul dans un ascenseur avec une femme. Même si tout se passe bien, juste le fait de le voir sortir de l'ascenseur avec une femme, il y a des gens qui auraient pu dire « il s'est passé quelque chose ». Ils auraient pu colporter la rumeur, il y aurait eu des gens qui auraient suspecté que « ah ben voilà, il s'est passé quelque chose » et peut-être ça aurait été fini de sa carrière et de son intégrité. Donc ça c'est juste pour dire, une seule rumeur peut ruiner la vie de quelqu'un ou la carrière. Pour les hommes politiques, c'est pareil aussi. Hein. Suffit de lancer, et alors qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, tous les mêmes, tous pourris. Nous n'avons pas le droit de dire, ils sont tous pourris. Parce que c'est un mensonge, les amis. On peut dire, oui, la politique est corrompue, oui, il y a des gens qui sont corrompus dans le domaine de la politique, mais on n'a pas le droit de dire ils sont tous pourris. Vous voyez la différence? Quand je dis ils sont tous comme ça, je dis un mensonge. Si je dis, les Français, ils sont tous comme ça. Non, c'est un mensonge. Je suis en train de parler de la part du diable et notre pays ne va jamais se redresser si on dit tout le temps des choses comme ça. Parce que ça n'existe pas un pays où tous les gens sont pareils. Et si on a un pays qui, par exemple, les gens vont dire, je ne critique pas, vont dire, la Suisse, c'est un pays propre. Mais je suis sûr que vous allez trouver un endroit en Suisse où ça ne sera pas propre. D'accord? Ça, c'est dans l'autre sens. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, englober et généraliser. Le fait de généraliser nous entraîne vers un mensonge. Donc, on peut tuer quelqu'un, c'est un autre point, par des paroles. Vous croyez ça? Par exemple, tuer quelqu'un par des paroles, ça veut dire suffisamment de critiques et de mauvaises paroles, peut conduire quelqu'un à être déprimé, et puis il peut se suicider. Et ça finit réellement par la mort. Bon, il faut pas exagérer non plus, hein. Si quelqu'un, il m'a pas dit bonjour, maintenant je fais une dépression, etc. Parce que tombe rapidement d'un extrême à l'autre. Mais c'est vrai que des paroles anodines comme ça, négatives ou d'attaque, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, ni quel sera le terrain dans lequel ça sera reçu. Mais faisons attention à ces paroles. Proverbe 18:6 dit « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. » L'insensé, certains versets de français moderne ou autres, des fois certaines versions disent maintenant le stupide. L'insensé, c'est le stupide, et la définition de l'insensé, c'est celui qui dit « il n'y a pas de Dieu ». Il est insensé parce que sa vie n'a pas de sens. Il n'a pas de direction. Il ne sait pas pourquoi il est sur terre. Il n'a pas de relation avec Dieu, son créateur. Quand je vous ai dit que si vous passez par quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui a déjà passé par là. Et quelqu'un qui a connu, excusez-moi l'expression, la totale, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on disait de lui? Ses origines. On parlait tout à l'heure des origines. Et on parlait de relations de famille. Jésus est né avec un doute. Une jeune fille qui n'a pas de mari, qui a un bébé, c'est douteux. Quoi? C'est Dieu qui a donné l'enfant à la jeune fille? C'est déjà difficile à vivre. Le beau-père Joseph accepte d'être le parent adoptif de Jésus, de le faire grandir, mais c'est un doute. Un doute sur l'origine aussi, il venait de Nazareth. Nathanaël, dans la Bible, dans Jean 1:46, pose cette question. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'était la Galilée. La Galilée n'avait pas une bonne réputation. Ensuite, on a semé le doute sur ses capacités. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Il n'a pas été dans nos écoles de rabbins. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui. À un moment, parce qu'il acceptait d'être avec les gens de Monsieur Tout-le-Monde, c'est un mangeur et un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Voilà ce qu'on a dit sur lui. Donc, les fréquentations aussi sont douteuses. Un moment, comme il délivrait des personnes qui étaient possédées de mauvais esprits, qui guérissaient les malades, on a dit, il a un démon. Un moment, on a dit de lui, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain? Les samaritains étaient des personnes qui étaient méprisées. Et même sa propre famille, un moment, ils ont dit, il est hors de sens, il est fou. C'est une autre expression. Donc, vous voyez toutes ces accusations, et jusqu'au bout, il a été accusé, accusé, accusé. Et il a tenu bon. Il y a eu des faux témoignages contre lui. Encore un point là. Faux témoignages contre Jésus. Parce qu'il fallait bien trouver un motif pour le condamner. Il n'avait jamais rien fait de mal. On n'a rien trouvé. Alors qu'est-ce qu'on a cherché? Des faux témoins. Marc 14, versets 55 à 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. C'était déjà l'issue du procès était déjà décidée, avant même qu'il ait eu lieu. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus sûre de ne pas faire justice. C'est d'avoir condamné quelqu'un avant qu'on ait déjà étudié ce qu'il avait fait. Il cherchait un témoignage, mais il n'en trouvait point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et il nous est dit, même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Mais vous voyez, là, on est en plein dans cette chose du diable, porter un faux témoignage, des fausses paroles, des rumeurs de toutes sortes. Donc les rumeurs, je reviens à mon ouvrage là, à un moment donné, il y a les femmes du village qui se réunissent pour un lait de chèvre. Et là, elles se racontent les histoires de tout ce qui est en train de se passer. Et alors, oh, vous savez, au bout d'un moment, on dit, c'était pour rire, c'était une plaisanterie. Et puis on lance de nouveau des petites rumeurs, et puis, ah, mais je ne peux rien dire, je n'ai rien dit. Et on lance juste, c'était vraiment excellent, je vous conseille de l'étudier et de voir que là, on est en plein dans le sujet de cette zizanie et de cette façon, parce qu'on va s'en rendre compte, dont ça se passe dans la vraie vie, c'est comme ça. Et vous savez, c'est pas pour critiquer. Mais, ça commence toujours comme ça, c'est pas pour critiquer, mais, et alors, on lance des trucs. Mais c'est pas pour faire du bien à la personne non plus. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à la personne même, pas à tout le monde sauf à la personne. Il paraît, vous savez, il paraît que, il faut vraiment s'assurer de nos sources. C'est pourquoi je vous relis une fois de plus, sinon ce sera une première fois pour ceux qui ne connaissent pas, la fameuse passoire de Socrate. Il faut toujours se la rappeler de temps en temps. Donc le philosophe grec Socrate, dans la Grèce antique, il avait une haute opinion de la sagesse. Et quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que j'ai appris sur ton ami ?»« Un instant, » répondit Socrate, « avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires. »« Les trois passoires ? Mais oui, » répond Socrate, « avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. » C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Et nous connaissons la réponse. Parce que quelqu'un cherche à utiliser notre bouche pour dire de mauvaises choses les uns sur les autres, répandre de faux témoignages, des mensonges et toutes sortes d'autres choses. Donc il est important pour nous qu'on puisse se situer et d'avoir des signaux d'alarme pour dire non, on ne va pas se lancer dans ce genre de choses qui ne font que détruire la vie des gens et qui sont contre le commandement de Dieu, de ne pas donner de faux témoignages contre les autres. Alors nous savons que les commandements, beaucoup de gens les voient comme une succession de choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, etc. Mais il y a toujours quelque chose de positif qui est par derrière. Quand la Bible nous dit « ne fais pas ci », ça veut obligatoirement pour nous dire « mais fais autre chose ». Donc nous devons non seulement ne pas mentir, mais au contraire édifier, apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Joseph, par exemple, pas l'autre Joseph, maintenant celui de l'époux de Marie, dans Matthieu 1, verset 18-19, il nous est dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvera enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Voilà la définition d'un homme de bien. Il aurait pu, en tant que fiancé du temps de la Bible, fiancé, ça voulait dire, on est déjà engagé, ce sera celle qui sera ma femme, on revient plus en arrière. C'est pas une période d'essai pour voir si ça marche, et puis après, on cherche quelqu'un d'autre. Fiancé, ça voulait dire, on n'est pas encore réellement marié, mais on est déjà engagé l'un avec l'autre, et ça va juste concrétiser dans la suite. Mais là, il nous est dit, ils n'ont pas encore habité ensemble, donc traduit, pas encore couché ensemble, et voilà que Joseph apprend qu'elle est enceinte. Donc, il n'avait pas la révélation immédiate du Saint-Esprit que Dieu faisait un miracle dans le ventre de Marie, mais c'était un homme de bien, nous dit la Bible. Il aurait pu maintenant, en tant que fiancé, exposer cette jeune fille, jeune femme, et dire, voilà, elle a couché avec un autre alors qu'elle était déjà fiancée avec moi, et la loi de Moïse, à l'époque, prévoyait qu'elle soit lapidée. Sentence de mort, lapidée, tuée. Mais il nous est dit que c'était un homme de bien. Il voulait son bien malgré tout. C'est énorme quand même de réaliser que Dieu avait bien choisi les personnes. Une jeune fille humble qui accepte le chemin difficile de porter le sauveur du monde et un homme qui l'a mis à ses côtés, qui accepte le fait qu'il n'était pas le père de l'enfant, qu'il avait un dessein divin. Mais dans sa situation, il pouvait imaginer qu'une chose, c'est que leur mariage pourrait pas se faire, il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc il voulait le faire en secret, pour ne pas lui faire de mal. C'est quand même énorme. Et ça, ça nous parle à nous. S'il avait dit, voilà, elle a couché avec quelqu'un alors qu'elle est ma fiancée, en fait, il aurait dit un mensonge. Peut-être c'est quelque chose qui semblait logique, mais c'était pas la vérité, voyez. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas donné de faux témoignages. C'est pourquoi c'est important qu'on suive aussi ces gens. Et il nous est décrit dans la Bible que c'était un homme de bien. Voilà des gens qu'on doit imiter. Un autre aspect de choses qu'on peut non seulement ne pas mentir, mais édifier, c'est parler de la part de Dieu en étant inspiré. Dans 1 Corinthiens 14, 3, il nous est dit, voilà ce que fait celui qui prophétise. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il condamne, il monte du toit, il agresse, il attaque, etc. Il les édifie, les exhorte et les console. Édifier, construire, aider les autres à se développer, à grandir. Exhorter, ça veut dire appeler hors d'eux. Quelqu'un qui est dans la misère, vous l'appelez hors d'eux, vous essayez de l'aider pour qu'il s'en sorte. Et les consoler, quelqu'un qui a souffert, on apporte des paroles de consolation. Autre aspect, ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous revenons dans Éphésiens 4, cette fois-ci. Un autre verset, toujours de ce même chapitre, le verset 29. Il nous est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. » Voyez, pas seulement « Ne dites pas de mal, tais-toi, ferme la bouche. » Non, tu peux ouvrir ta bouche, mais pourquoi? Pour quelque chose de bien. Des paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, il est intéressant pour nous de noter le verset suivant, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » La Bible nous explique que le Saint-Esprit, c'est cette personne de la Trinité qui met les choses en action. Par exemple, une illustration dans Genèse 1, il nous est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit se mouvait, l'Esprit était en action, mais il n'a pas fait quelque chose, un acte de création. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est quand Dieu a parlé que l'Esprit qui était présent a agi et a fait un acte de création. C'est pour ça que le Saint-Esprit peut être attristé, parce que si vous ouvrez votre bouche que pour dire des mensonges et des méchancetés, vous participez à l'œuvre du destructeur. Mais si vous ouvrez votre bouche pour dire de bonnes choses, vous permettez au Saint-Esprit d'agir dans la vie des gens et de les transformer et de les aider à s'en sortir. Et mon dernier point, c'est toujours dans ce « faites quelque chose de bon », c'est choisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir des paroles de vie. Deutéronome 30, verset 14-19, il nous est dit « c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. C'est pas quelque chose qui est loin, qui est difficile, que tu peux pas faire. C'est où ? Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui, alors vous pouvez mettre votre date d'aujourd'hui, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et alors vous appliquez ça, parce que c'est pas de la théologie très compliquée, à votre vie d'aujourd'hui. Et vous, dans le couple, au lieu de se faire tout le temps des reproches, vous semez de bonnes paroles dans votre couple. Pour la famille, pour les relations, pour les enfants, au lieu de dire des bêtises, tu feras jamais rien de ta vie, vous dites d'autres choses. pour les études, les étudiants, au lieu de dire j'arriverai jamais, eh bien non, il ne faut pas dire j'arriverai jamais. Les études, c'est important, mais ce n'est pas tout. D'accord? Ce n'est pas tout. Matthieu 6, 33, 34 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est pour ça que c'est important. Le dimanche, si on coupe, si c'est notre jour de repos, ben on pense pas au lundi. Trop de gens pensent au lundi. Et pendant ce temps, le dimanche est gâché et on n'en profite pas. Les paroles de vie aussi par rapport à notre environnement de professionnels, de collègues, de clients, de patrons, il y a beaucoup, il y a des jalousies, la calomnie, toutes sortes de choses. Et aussi, ça s'applique au niveau des autorités. On peut critiquer le chef, le patron, monsieur le maire, le gouvernement, mais ça ne change absolument rien. Ça ne rend pas les choses meilleures. On peut de temps en temps avoir un coup d'énervement, mais il nous est dit qu'on doit surmonter la colère et qu'elle demeure plus. Ce qui améliore les choses, c'est qu'on dise de bonnes choses et qu'on interpelle les gens sur les décisions qui sont prises, mais pas simplement en parler encore et encore et encore. Et en conclusion, donc, je voudrais juste faire ce rappel du commandement. Tu ne diras point de faux témoignages contre son prochain. Je rappelle, nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mentir à notre prochain, le trahir, calomnier ou le diffamer, mais de l'excuser, dire du bien de lui et juger charitablement sa conduite. Le proverbe 18-21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que vous aimez, ben vous allez en manger les fruits. » Ceux qui aiment la mort, ben, ils vont goûter à la mort. Si ce qu'on veut, c'est que ça, ben, c'est ce qui arrivera. Mais ceux qui aiment la vie, ils vont dire de bonnes paroles de vie et puis ils vont voir leur vie transformée. Et mon dernier verset qu'on retrouve encore une fois dans Éphésiens 4, c'est le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.